fête de l'Ascension. Posez-vous la question, Aristote aurait assisté à l'ascension de Jésus. Il aurait été au moins en admiration, demandant d'où ça pouvait venir. Il aurait lu le texte des Actes des Apôtres. C'est vrai, les Grecs avaient un tel respect devant Socrate. Et la mort de Socrate, que devant la mort de Jésus et de la résurrection et de l'ascension, je sais bien qu'à l'ascension, il n'y avait pas une foule, il n'y avait pas 5 millions de personnes. Ça s'est passé en famille. C'est une fête familiale. C'est extraordinaire, mais c'est une fête familiale. C'est un petit cercle. Marie était là, je crois, quand même. Et les saintes femmes, peut-être. Ça ne m'étonnerait pas. Je crois qu'il faut le vivre comme une fête familiale. Alors aujourd'hui, du moins ces jours-ci, nous allons regarder quelle attitude le philosophe, et je prends philosophe au sens le plus profond, philosophia, l'ami de la sagesse. Au fond, tous ceux qui ne sont pas des amis de la sagesse ne sont pas des philosophes. Ça irait vite vers un triage, hein. Et c'est quand même ce qui s'est passé historiquement. Les premiers philosophes sont des sages. Et il y a la nostalgie de la sagesse. Dans toute philosophie, il doit y avoir la nostalgie de la sagesse. Et s'il n'y a plus la nostalgie de la sagesse, ce sont des psychologues, des anthropologues, ce sont des amis. Et même anthropologue, c'est pas entièrement l'ami de l'homme. Parce que si on est vraiment l'ami de l'homme, on est l'ami de la sagesse. Puisque ce qu'il y a de plus grand dans l'homme, c'est cette conquête de la sagesse. Et cette recherche de la sagesse. La vérité tout entière. Parce que c'est très beau cette expression. Johannique, c'est l'Esprit Saint qui doit nous conduire à la vérité tout entière. Mais au fond, le philosophe, c'est ça que ça veut dire. L'ami de la sagesse, c'est celui qui est l'ami de la vérité, la plus plénière qui soit. Le philosophe n'a pas de limite dans sa recherche. C'est ça qui caractérise un philosophe, il n'a pas de limite. Les savants ont des limites parce qu'ils se sont donné des limites. Même le mathématicien. La mathématique n'est pas une sagesse. Elle est quelque chose de merveilleux pour montrer les développements étonnants de l'intelligence pour comprendre. Et très souvent, au fond, les mathématiques sont rivales de la philosophie. Hier, je voyais Sarah Lix qui avait reçu un dernier livre, une traduction de Whitehead, qui lui était envoyé gracieusement. Donc, elle est considérée comme les grands amis de Whitehead, parce qu'elle a fait sa thèse à Fribourg sur Whitehead. Et Whitehead commence par définir ce que c'est que le philosophe. C'est intéressant. Parce que Whitehead est le Bergson américain, vous voyez, avec une très grosse différence. Mais c'est un peu ça. C'est un homme qui éprouve le besoin, comme toute une série de savants, de passer. passer de la science à la sagesse, à la philosophie, du CERN, c'est la même chose. Doctorat en mathématiques, puis la philo. Et Whitehead définit la philosophie un système cohérent de l'intelligence que l'homme est capable de faire pour expliquer l'univers. Je crois que c'est exactement le schéma d'un scientifique. Avoir une théorie, un système cohérent qui explique tous les faits. C'est très curieux et c'est intéressant parce que je crois que c'est une des manières pour nous de comprendre ce qui se passe aujourd'hui au point de vue philosophique. Et il y a toujours eu l'attraction très très forte des mathématiques, de la logique et de certaines sciences, sciences biologiques. Et ça se retrouve aujourd'hui, vous voyez, dans ce qu'on appelle la bioéthique. On retrouve ça. Une espèce de rivalité qui est née. C'est du reste intéressant de voir quand est née cette rivalité entre les sciences et la philosophie. Alors si la philosophie perd son caractère de sagesse, elle se réduit à la science. Et je dis bien elle se réduit, c'est une réduction, parce que c'est plus vraiment la philosophie qui doit être sagesse de l'homme. Et la philosophie doit être les amis de la sagesse de l'homme. Et je crois que c'est très important aujourd'hui de comprendre ce que Heidegger avait très fort senti, que la philosophie est descendue tellement bas qu'il y a une espérance de renouveau. Alors il prend l'exemple tout simplement, Heidegger, c'est facile à comprendre. Quand on dégringole au fond d'une piscine, on touche le fond. Et à ce moment-là, on peut donner un coup de talon et remonter. Mais on peut aussi rester dans le fond. Et ça arrive. Alors on est à plat ventre. Et on attend la mort. Mais on peut aussi, et Heidegger se considère comme donnant ce coup de talon. Parce qu'il est un peu le Platon de notre époque. Le philosophe poète. Ah, il y a aussi la poésie. Hein. Rival de la métaphysique. D'une autre manière, d'une façon beaucoup plus sympathique du reste. Parce que c'est pas la rivalité, là. Ce sont les petites fleurs philosophiques qu'on reçoit, qu'on cueille. Puis on en fait que le poète ne va pas faire un système. Non, non. C'est ce qu'il y a de beau dans Platon, c'est qu'il n'y a pas de système, il y a des avenues. Et c'est l'exemple que prend Heidegger, ce sont des avenues dans une forêt qui tout tendent vers le centre. C'est assez joli comme figure du reste. Et ça montre bien ce qu'est Platon. Alors c'est très curieux, Heidegger n'aime pas du tout Platon. Et au fond, il est le Platon de notre monde. Ceci pour vous montrer que le sujet que nous essayons de traiter ensemble, je le crois absolument capital. Grâce à Dieu, c'était ce que je devais enseigner à Fribourg. Quelle est la situation de l'homme philosophe, c'est-à-dire l'homme qui cherche la vérité, pour ramener L'homme qui cherche la vérité est ami du philosophe, donc il est lui-même un peu philosophe. Mais quand il cherche la vérité en s'imposant une méthode antérieure à sa recherche, il est forcément limité. Alors c'est pour ça que c'est si difficile pour nous aujourd'hui. Parce que du temps de la Grèce et dans l'Inde, on ne se fixait pas une méthode. On la faisait. On la découvrait après. C'est un regard réflexif, la méthode. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne a priori. On fait ça pour des bénédictins. Parfaite. Bien. Le dernier poil à gaz, le dernier. Et on met la méthode. Voilà comment s'en servir. Puis on met attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis si on commence par le dernier, tout saute. Bah, ça me fait toujours beaucoup réfléchir ça, parce que quand on fait une méthode, il y a ça. Et si on ne suit pas ça, ça va pas du tout. Enfin, tu pratiques. C'est merveilleux, une méthode. Parce que c'est un peu profiter d'un patrimoine. On a fait des essais, et puis on ramène ça au chemin le plus court. Et une vraie méthode, c'est le chemin le plus court. Et si vous découvrez un chemin plus court que la méthode, vous demandez un brevet. Et vous avez un brevet. Parce que c'est le chemin le plus court. Vous voyez, c'est pas la vérité. C'est le chemin le plus court pour atteindre un but. Une méthode, c'est ça. Méta, odos. Odos, c'est la voie. Alors, métaphysique, méta, odos. C'est la super voie. Il y a une voie qu'on trace, on cherche. Jésus ne s'est pas dit méthode. C'est curieux. C'est pour ça qu'il n'a pas de succès, n'est-ce pas? C'est pas dit méthode. Jésus aurait dit la méthode de la vie, c'est moi. Méta, odos. Odos, la voie. C'est la rue. C'est le chemin. C'est par là qu'il faut passer. Et alors, méta, c'est la super. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est super toujours, n'est-ce pas? Donc, odos est tombé, mais c'est super. Parce que c'est l'avion. Il n'y a plus de méthode, mais il y a super. Donc il y a le point de vue qu'on dépasse tout. Et c'est vrai, mais il faut une méthode pour que l'avion puisse décoller. Mais quand il est au-dessus, là évidemment, comme aujourd'hui on veut aller très vite, on décolle tout de suite. Et on a au-dessus de tout, vision aérienne. Alors je voudrais commencer très rapidement. Petite vision aérienne pour qu'on comprenne bien le sujet qu'on prend aujourd'hui pendant ces quelques jours. Vous voyez, voir pour nous le berceau de la philosophie, c'est la Grèce. Milet, ceux qui sont passés à Milet se rappellent berceau. Une émotion la première fois que j'ai vu une petite Et pourquoi? Parce que Hésiode, dans ses travaux, et c'est beau, les deux travaux, parce que ça montre très bien ce que c'est que le philosophe, c'est un livre, premièrement, sur les travaux et les jours, c'est-à-dire au fond le travail du laboureur, le travail artisanal du laboureur, et le foyer, et toute une vision sur la famille. Philosophique de la famille, selon nos traditions grecques. Mais vous avez une autre vision de la famille, selon notre tradition sémite, juive, chrétienne. C'est tout à fait différent, mais c'est intéressant de comparer. De vous, là, il y a une comparaison qui est très intéressante. Donc, il y a à la fois une vision théologique sur la genèse des dieux, et puis le travail, et toute sa philosophie, c'est ça, le travail avec la famille, puisque la finalité du travail, c'est pouvoir élever une famille, et pouvoir avoir des enfants, et les élever, et pouvoir plaire à son épouse, et faire attention qu'elle ne soit pas le frelon dans la ruche, parce qu'alors à ce moment-là, les deux, la paire de bœufs ne suffit plus. Et puis, la vision théologique sur les dieux. La philosophie a commencé par une théologie. Pourquoi? Parce qu'on considérait que la sagesse implique un logos sur Dieu, sur les dieux. C'est quand même très important de se rappeler ça. Puisque ça, c'est l'origine. Les Grecs ont commencé de cette manière-là. Donc toute la culture, toute notre culture occidentale a commencé par cette vision, la genèse des dieux, l'Olympe. Et puis, l'homme, c'est un travailleur. L'homme n'a de valeur que par son travail. Et c'est le premier regard philosophique sur le travail, travail artisanal. Ensuite, c'est important cela. Ensuite, on voit très bien comment la philosophie a essayé de se séparer des traditions religieuses, ou plus exactement de se distinguer des traditions religieuses, se distinguer de la poésie. Parce que Hésiode, tout est lié. Vous comprenez, sa théogonie, sa genèse des dieux repose sur toutes les traditions religieuses. Et il récolte toutes ces traditions religieuses. Et donc les traditions religieuses font partie essentielle de sa philosophie. Et dans la vision sur le travail et les jours de fête, c'est encore cette tradition religieuse qui commande cette vision. Alors vous voyez, le fond de notre philosophie, c'était les traditions, le patrimoine des traditions religieuses. C'est à partir de là que l'intelligence philosophique a commencé de naître. Et comme c'est l'origine vis-à-vis du regard sur ce vers quoi l'homme tend, le regard le plus profond de l'homme vers les dieux, la dépendance de l'homme vers Dieu, comment l'accepter, comment s'en libérer, la moïra, dépendance. On est dépendant de quelqu'un qui nous domine, dont on ne sait pas très bien comment il nous domine et comment on peut se libérer. Mais la philosophie a été quand même très très vite cette sorte de libération. essayer de libérer l'homme. Il y a ça très nettement dans la pensée d'Hésiode, et je crois que ça reste quelque chose de très profond. Vous voyez, quand on voit dans l'Écriture, la vérité vous libérera. J'ai le droit, hein, en tant que philosophe, de m'intéresser à la tradition judéo-chrétienne. Et j'ai le droit de regarder que dans l'Évangile de Jésus-Christ, étant donné que Jésus est plus que Socrate, les Grecs se sont intéressés à Socrate. Moi, en tant que philosophe, je peux m'intéresser à Jésus. Et on voit qu'aujourd'hui, ça commence, hein. Très bien, le dernier livre sur Jésus, c'est un mauvais philosophe qui a fait ça. Mais au fond, il faudrait maintenant un bon philosophe qui montre Jésus dans la lumière du philosophe. Comme montrait Socrate, qui n'était pas philosophe, mais qui était un homme. Alors, on voit très bien comment il y a au fond de cette recherche philosophique toujours une recherche de la vérité pour libérer l'homme de certaines traditions qui sont trop lourdes, traditions religieuses trop lourdes, qui au fond empêchent l'homme de se libérer, de choisir sa vocation, son destin, de choisir son bonheur, dès le point de départ au sens. Et la philosophie sera la possibilité de voir exactement jusqu'où l'homme est libre, jusqu'où il est dépendant du cosmos dans lequel il se trouve, de l'univers, à l'égard des dieux, à l'égard de toute une tradition humaine, et découvrir la liberté de l'homme. Son bonheur. Ça me semble fondamental à la recherche philosophique. S'il n'y a plus ce lien-là, je crois que le philosophe ne sait plus très bien ce qu'il fait. Alors on voit progressivement cette découverte, et tous les historiens de la philosophie grecque soulignent que Héraclite, Thévère, est le premier philosophe grec qui découvre le logos. Très difficile à traduire. Le logos grec, c'est quand même important. Et pour nous, ça nous intéresse beaucoup. On a traduit en latin sages, ce sont les sages qui font les lois. Et sagesse pour faire les lois. Et donc, il y a les lois. Et puis, il y a aussi cette intelligibilité au-delà de la loi, cette intelligibilité profonde des réalités. Alors, on traduira raison. Raison. Mais il faut faire attention. C'est l'intelligibilité des choses. Je crois que c'est mieux que raison. Mais c'est cette idée-là. C'est l'intelligence qui connaît. Et qui connaît en profondeur. Qui atteint la vérité. Le logos, c'est atteindre la vérité des choses. Et la connaître. C'est lié à ça. Alors c'est très curieux. J'ai Héraclite, il y a le logos et le feu. Le feu visible et le feu invisible. Ouais, c'est assez curieux de voir que vraiment le premier philosophe à Éphèse, c'est l'intelligibilité et le feu. Vous voyez, le feu symboliquement exprime l'amour. Le logos, c'est pas l'amour. Et au fond, c'est les deux grands axes de sa pensée. C'est le feu et le logos. Ce qui montre que très vite, la philosophie a essayé de trouver ce qui est nécessaire. Parce que le logos, c'est justement ce besoin de découvrir quelque chose de nécessaire. Au-delà de tout ce qui change, au-delà de tout ce qui est en mouvement, le pantarei d'Héraclite, tout change. On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve. Vous voyez l'image de l'eau qui coule et qui montre le mouvement de toute chose et le mouvement du monde physique. Et alors il faut dépasser ce mouvement pour découvrir le logos. Et le feu, c'est l'inverse de l'eau. L'eau descend et le feu monte. Et alors cette image du feu qui prend une telle importance chez lui, parce que ça exprime qu'il y a en nous comme un appel constant vers quelque chose de plus grand. Et c'est pour ça qu'il dit le feu visible. Il ne dit pas l'eau visible et l'eau invisible. Oh non, il n'y a pas d'eau invisible. Tandis qu'il y a un feu invisible. Pourquoi ? Parce que ça monte. Et que quand l'homme monte, quand il va le plus loin, oui, c'est une première image de l'ascension, hein. Très lointaine si vous voulez, mais c'est quand même ça. C'est la montée. La montée et la montée fait que si on monte toujours, au bout d'un certain temps, c'est le feu invisible. Parce que dans l'homme, il y a quelque chose qui est invisible. Alors, le logos est invisible et le feu invisible. Je crois que c'est très important de voir que c'est quand même le premier moment où la philosophie saisit comme des points nécessaires, fixes. Et parallèlement à Hésiode, même je dirais à Héraclite, parallèlement à Héraclite, il y a Parménide, l'être. Pourquoi l'être ? Parce que c'est l'intelligibilité la plus profonde. Parménide découvre le fondement de toute intelligibilité, ce qui est. Tout ce qui est pour nous un point de départ d'une recherche. Comprendre ce que ça veut dire, comprendre sa signification. La signification n'est pas la réalité, mais ça provient de la réalité. Et Parménide alors, lui, veut découvrir ce qui est nécessaire, l'être nécessaire. Je crois que c'est la première découverte au plan philosophique d'un absolu nécessaire au-dessus de tout ce que nous pouvons constater. Zénith considère que cette découverte de l'être ne peut se faire qu'avec le secours des se fera par la déesse. Le philosophe donnera la main à la déesse pour découvrir l'être. Voyez qu'au fond, la philosophie naît à travers les traditions religieuses. La philosophie cherche le nécessaire. Et la philosophie comprend que le fondement du nécessaire est quelque chose qu'on ne peut atteindre que dans une vision qui est surhumaine. Je crois que c'est très important de comprendre ce climat religieux et, j'allais dire, super religieux. Il y a une inspiration. Il y a comme une révélation. Mais révélation philosophique. C'est pas la foi, non, pas du tout. Mais cette révélation engendre une conviction profonde et une découverte de la vérité. Et alors il y a cette très belle image que la vérité, elle est toute ronde. Oui, c'est le cercle qui montre la perfection de la vérité, qui montre la vérité tout entière. Et en même temps qu'il y a cette découverte de l'être, il y a ce regard sur le monde des opinions. Les hommes à double tête. Tout ça très très joli. Les hommes à double tête. C'est-à-dire, quand on se fonde sur ce que les hommes disent, il y a pour et contre. C'est toute la dialectique. Pour et contre. Oui et non. Le normand à double tête. Hein, on voit très bien ce que c'est. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, il y a les deux. Et ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais si nous ne quittons pas ce monde pour nous élever, pour dépasser les portes de la justice, pour découvrir l'absolu, on restera perpétuellement dans cette espèce de dialectique d'opposition qui engendre l'angoisse. Voyez que c'est très fort ce début de la recherche grecque. Il y a des choses quand même extrêmement fortes et qui vont très loin et qui nous font comprendre ce que c'est que la philosophie dans sa naissance. L'avantage de la philosophie dans sa naissance, c'est qu'elle n'est pas vieille. Et donc, elle n'a pas de rides. Et donc, elle dit les choses ouvertement. Et elle n'a pas peur de les dire. Et elle n'a pas peur de montrer que la pensée humaine va plus loin que la parole. Et que seul l'absolu, cette découverte étonnante que seule dans l'absolu, la pensée et la parole peuvent s'identifier. Mais pour les hommes à double tête, non. Et c'est justement parce que la parole n'est jamais adéquate à ce qu'on pense qu'on dit toujours peut-être oui, peut-être non. La dialectique, c'est une pensée au niveau de la parole. Peut-être que oui, peut-être que non. On balance tout le temps. Dès que je dépasse pour découvrir la réalité, j'atteins un absolu. Alors, il y a une contemplation. Il y a un regard. Il y a un repos. Tant que je suis au niveau du langage, tant que je suis au niveau du devenir, je suis perpétuellement en mouvement. Pas de repos. Et pour les Grecs, c'est très important cette idée de repos et cette idée de mouvement. sens du mouvement. Il y avait, il y a quelques années, une petite exposition à Paris sur la sculpture grecque et la sculpture de l'Inde. C'était très intéressant de voir combien la sculpture grecque est attirée par le mouvement. Et qu'on on essaie de comprendre ce que c'est que le mouvement. Et c'est vrai, toujours. Mais il y a un dépassement du mouvement pour le repos. Et c'est pour ça qu'on dit que la contemplation est un repos. Un dépassement de la dialectique. Un dépassement du mouvement. Quelque chose de tout à fait nouveau. Où il n'y a plus de parole. Il ne peut plus y avoir de parole. Parce que la parole est nécessairement dans le mouvement. Quand vous parlez, vous êtes dans le mouvement. C'est pour ça que quand vous êtes dans un silence glacial, vous vous mettez à parler tout seul, tout haut. C'est le mouvement. Et ça vous... Je ne dis pas que ça vous repose, mais ce silence vous accable. C'est très curieux combien la parole donne le sens du mouvement. Et la dialectique naît à partir de ce sens du mouvement et de la parole. Alors vous voyez que la pensée grecque, philosophie grecque, le berceau de la pensée philosophique, c'est la Grèce. On voit tout de suite ces quelques axes de recherche, l'homme et Dieu. Et l'homme, chez Parménide, il est ou l'homme à double tête, ou l'homme qui rencontre la déesse. Alors vous avez l'homme à double tête, ça c'est la multitude. C'est l'homme qui ne regarde que le cosmos, qui ne regarde que les réalités sensibles, qui ne regarde que le mouvement et qui s'identifie au mouvement. Alors il est à double tête. Et l'homme qui dépasse ce mouvement et qui découvre l'être, la pensée, qui s'identifie avec l'être, l'absolu, la vérité. Pas de vérité dans le chez les hommes à double tête. Cette recherche philosophique va aboutir progressivement aux deux grands philosophes grecs qui restent les deux grandes têtes, Platon et Aristote. 200 ans après. Hésiode, à peu près vers l'an 700 avant Jésus-Christ. Et Aristote, 400, 300. Aristote, Platon, qu'est-ce qui a eu lieu avant la mort de Socrate? Et Socrate est le père de Platon. Intellectuel. Il est le père d'Aristote aussi. Mais grand-père, Aristote l'a pas connu. Je crois qu'il y a les trois et qu'il ne faut jamais séparer ces trois. Socrate, c'est le sage. C'est pas le philosophe, c'est le sage. Vous savez qu'il n'a rien écrit. Alors, historiquement, il y a trois Socrates. Il y a le Socrate qui était d'abord avec les sophistes. Il y a le Socrate qui est sorti des sophistes pour devenir capitaine. Et puis le Socrate qui a fait terminer sa vie auprès des jeunes pour les sauver. Mais c'est celui qui est le sage et qui veut communiquer cette sagesse aux jeunes pour les empêcher de tomber dans la séduction des sophistes. Et c'est celui qui d'une certaine manière veut former à l'au-delà de la politique. Parce que si on reste dans la politique, les sophistes risquent toujours de vous empoisonner. Les sophistes n'ont pas d'autre but que de persuader. C'est la persuasion. Ce n'est pas la recherche de la vérité. C'est la persuasion. Et la persuasion pourra arriver intéressant du reste. Si ceci est vrai, c'est très intéressant de voir ces trois périodes. La conversion des sophistes se fait par un engagement politique. Et l'engagement politique de l'armée militaire, c'est un engagement qui rectifie beaucoup de choses. Parce que ça oblige de regarder les choses comme elles sont. Autrement, ça ne va plus du tout. Et puis, le militaire conduit vers quelque chose de beaucoup plus profond. Ce qui est sûr, c'est que Platon a été converti par Socrate. Et Platon, qui est un génie, torbe poignet, mais un génie, j'allais dire, plus de la parole que de la vérité. C'est le génie de la parole, Platon. C'est un poète, mais un poète philosophe. C'est un homme qui a un sens étonnant de l'amour et aussi du nécessaire. Ça devait être quelqu'un qui séduisait prodigieusement les jeunes. Alors, chez Platon, il y a un amour de la vérité, ça on ne peut pas nier. C'est dans ça qu'il est philosophe. Il y a Platon, disciple de Socrate, des premiers dialogues. Platon découvrant son génie et l'œuvre capitale de Platon, c'est la République. Traité de la justice, c'est son œuvre étonnante. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça reste au fond un grand mystère. Comment Platon est devenu autocritique de lui-même? Est-ce l'influence d'un jeune, le jeune Aristote? Et ce jeune Aristote, l'histoire ne veut pas du tout que ce soit Aristote. Et j'en sais rien. On verra ça au ciel. Beaucoup de découvertes à faire. Bon, ça ne m'étonnerait pas que ce soit Aristote. Et il s'est camouflé. Hein. Alors, c'est l'art extraordinaire du mensonge artistique. Ça, c'est très grec. Hein. Faut pas l'oublier. C'est... Platon, du reste, lui, il le fait au point de vue philosophique. Il dit que le chef d'État a le droit de mentir. Il a le droit de mentir s'il a de bonnes intentions. C'est un peu machiavélique, soit. J'ai le droit de mentir parce que ceux qui sont ces sujets ne sont pas assez intelligents pour comprendre. Le philosophe doit être roi, doit être tyran, dans le sens où celui qui a l'autorité. Et vous voyez, la philosophie tombe là dans un point de vue pratique et utilitaire. Pourtant, Platon reconnaît que c'est la contemplation. C'est pour ça que d'une certaine manière, tout est dans Platon. Le primat de la contemplation. Et il a des choses extrêmement belles là-dessus. Et en même temps, la contemplation ne suffit pas, parce qu'on est dans un monde où il faut s'occuper des hommes. Et donc il faut descendre auprès des hommes, dans la caverne. Où se trouvent les hommes? Les hommes ne voient pas, ils sont aveugles, les hommes. Ils ont très peu d'intelligence. Leur intelligence dort. Ils sont des somnambules. Ils ne demandent qu'une seule chose, c'est d'être conduits. Comme des somnambules. Ils ne réfléchissent pas. Il y a un mépris souverain vis-à-vis du bon citoyen. Ça, c'est sûr. C'est le philosophe seul contemple. Et donc, pour aider les autres, tous les moyens sont bons. Alors, il y a ces deux aspects chez Platon. Et alors, il y a un moment, et ça, c'est pas étonnant, où Platon, peut-être sous l'influence d'Aristote, Aristote a été 20 ans disciple de Platon. Ça représente quelque chose. Hein, de 18 joue où on est le plus impressionné intellectuellement, où on est le plus influençable. Et Aristote venant à l'Académie, trouvant quelqu'un comme Platon, et en même temps résistant à Platon, disciple et résistant. C'est ça qui est si extraordinaire. C'est ça, je crois, qui a formé Aristote. C'est le maître d'Aristote est un maître qu'il a admiré. Cette fameuse phrase qu'on répète souvent et qu'Aristote donne dans son éthique. Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. Alors ça, c'est Aristote qui aime Platon, parce que Platon est séduisant et aimable. Et Aristote a reçu beaucoup de Platon. Et puis, là, je ne peux pas le suivre. Je cherche la vérité. Alors cette autonomie construite à travers une lutte intérieure. Il y a eu dû avoir une lutte intérieure énorme chez Aristote. Il a lutté contre cette séduction. Il a lutté contre cet art rhétorique et cette philosophie si séduisante. Pourquoi il n'a pas accepté ? Platon a manqué d'expérience. Voilà la grosse critique. On dirait aujourd'hui Platon plane. Et il plane admirablement. Il sait où il y a du vent. Et il plane merveilleusement. Il plane tout le temps. Il décolle. Et ça, c'est insupportable pour Aristote. C'est insupportable. Et je crois que ça explique, voyez, il se réalise d'Aristote. Il ne veut pas quitter l'expérience. Il y a toujours l'expérience, mais il y a un dépassement de l'expérience par l'intelligence, le nous séparer. Alors, on peut dire que la philosophie a pris avec Platon et Aristote les deux grandes formes d'une recherche philosophique. C'est ça, le génie grec. C'est qu'il y a deux philosophes qui, d'une certaine manière, ont été jusqu'au bout de leur recherche. Et c'est curieux, Thomas d'Aquin reconnaît que les deux ont été jusqu'au bout. Je ne crois pas qu'historiquement c'est tout à fait vrai, mais les intentions, et c'est ça qui est beau chez Thomas d'Aquin, c'est qu'il saisit les intentions. Sûrement que Platon a voulu aller jusqu'au bout, mais le point de départ n'est pas assez stable. Vous savez, quand on veut monter très haut sur une échelle, sur le sycomore, quand on veut monter très haut, il faut que le point de départ soit très stable. Autrement, on dégringole. Et le point de départ de Platon, il est imaginatif. Et parce que il n'a pas dépassé certaines traditions religieuses. Avant d'être dans un corps, mon âme était auprès des dieux. Il y a eu un paradis terrestre. Le paradis terrestre de Platon, c'est d'être auprès des dieux. Alors, je ne sais pas très bien, quand on est auprès des dieux, comment on peut encore dégringoler. Il y a eu une chute d'orgueil. Et alors, à cause de la chute d'orgueil, il y a l'épreuve. Il faut la purification. Il faut tout reprendre parce que l'âme a été unie au corps. Mais cette liaison de l'âme et du corps est pénale. est l'instrument de l'épreuve. Les dieux ont inventé le corps humain lié aux animaux, lié à cette vie animale, et a lié l'intelligence à l'expérience, aux sensations, à tout cet aspect animal de la vie végétative. Et ce lien a été fait par les dieux pour purifier l'homme. Mais une mission très curieuse, j'allais dire hyper religieuse, contemplative, mais sans donner réel. C'est, il a découvert ça. Alors comment a-t-il découvert ça auprès de Socrate, alors que Socrate n'était pas comme ça du tout? Aristote prétend être plus disciple de Socrate que Platon. Il y a eu une chute aussi. Alors est-ce que c'est l'orgueil? Parce que les Grecs sont très sensibles à l'orgueil, parce qu'ils étaient très portés à l'orgueil. Intelligent, artiste, il sentait ça. Ce qui est sûr, c'est que là, on a deux grands aspects. Et pratiquement tous les historiens de la pensée, de notre pensée européenne, puisque maintenant, c'est ça qu'on regarde. Quelle est la philosophie européenne? Qu'est-ce que le développement? Bon, il s'est enraciné dans la philosophie grecque. Tout le monde est d'accord. Alors il y aura un parallélisme très intéressant à faire avec cette grande montée dans l'Inde. Et ceux qui sont les grands spécialistes de l'Inde, quelqu'un comme Olivier Lacombe, que j'ai bien connu, dit qu'on retrouve exactement la même chose en Inde. Alors ça, c'est intéressant de voir qu'au fond, il y a comme deux types de pensée philosophique, Platon et Aristote. L'un qui se fonde sur l'expérience en vue de la vérité. L'autre, inspiré, artiste. C'est pas la vérité qu'on cherche, c'est plutôt l'harmonie. Comment peut-on saisir toute la complexité de l'homme et avoir une vision du monde entièrement orientée vers le bien absolu, le beau absolu, l'un, c'est-à-dire Dieu. Et ce sont deux visions qui toutes se terminent et s'achèvent en Dieu. Mais la manière de l'atteindre est totalement différente de l'un et de l'autre. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, on est très sensible à ça. Alors on retrouve ceux qui restent platoniciens quelquefois sans le savoir.